Vous écoutez On lit pour vous.
Des éléments clés pour la vie découverts sur une lune de Saturne. Un texte de Bénédicte Ré paru dans Le Devoir. L'océan d'Encelade abrite des molécules organiques complexes, un indice de plus que cette lune glacée de Saturne renferme des conditions favorables à une potentielle vie extraterrestre, selon une étude publiée dans Nature Astronomy. Invisible à l'œil nu, cette petite lune, une boule blanche d'un diamètre de seulement 500 km dont la surface semble striée de cicatrices, est en orbite autour de Saturne, la sixième planète du système solaire. Bien trop loin du Soleil, et donc trop froid, pour en faire une zone habitable, ont longtemps pensé les scientifiques. Jusqu'à ce que la sonde Cassini, qu'il a survolée à plusieurs reprises lors de sa mission vers Saturne et ses anneaux entre 2004 et 2017, établissent la présence d'un vaste océan d'eau salée caché sous une épaisse couche de glace. Depuis, les données recueillies par la sonde ne cessent de livrer de nouveaux indices sur la présence d'éléments nécessaires à l'apparition de la vie. Sel, méthane, dioxyde de carbone, phosphore. À son pôle sud, Cassini a découvert des geysers jaillissant de fissures et projetant en l'air de minuscules particules de glace plus petites que des grains de sable. Certains de ces grains de glace retombent sur la surface de la Lune, tandis que d'autres s'échappent dans l'espace, rejoignant un anneau autour de Saturne. Retour sur Encelade. Quand elle passait à travers l'anneau E, le plus externe des anneaux de Saturne, Cassini détectait constamment des échantillons d'Encelade, rappelle dans un communiqué de l'Agence spatiale européenne, ESA, Nozer Kawalya, planétologue à l'Université libre de Berlin et auteur principal de l'étude. Les scientifiques y avaient identifié de nombreuses molécules organiques, dont des précurseurs d'acides aminés, des briques fondamentales de la vie. Mais ces particules pouvaient être présentes dans l'anneau depuis des centaines d'années et avoir été altérées par le rayonnement cosmique intense. En 2008, Cassini a traversé directement le panache glacé. Des grains de glace éjectés seulement quelques minutes auparavant ont percuté l'analyseur de poussière cosmique de la sonde à une vitesse de 18 km seconde. Leur analyse chimique approfondie, objet de la nouvelle étude, a nécessité des années. Les molécules que nous avons trouvées dans le matériau fraîchement éjecté prouvent que les molécules organiques complexes que Cassini a détectées ne sont pas juste le produit d'une longue exposition dans l'espace, mais sont bel et bien présentes dans l'océan d'Encelade, explique le planétologue Frank Potzberg, co-auteur de l'étude citée dans le communiqué. La confirmation de la présence de ces molécules, sur laquelle on n'avait pas de gros doutes, est une pierre supplémentaire à l'édifice, estime auprès de l'AFP, l'astrochimiste Caroline Fraissinet, qui n'a pas participé à l'étude. Cela montre surtout qu'avec les nouvelles technologies, le machine learning, l'intelligence artificielle, on est capable de faire de nouvelles analyses, de nouvelles interprétations de données qui sont anciennes, souligne la chercheuse au laboratoire Atmosphère et Observation spatiale. Il y a encore plein de jus à presser de données issues de missions qui n'existent plus aujourd'hui. Pour pouvoir avoir une identification vraiment très précise des molécules, il faudrait idéalement atterrir là où il y a les geysers, au pôle sud, et récupérer les échantillons, ajoute-t-elle. L'ESA a lancé les études pour un tel projet. Une mission qui effectuerait des mesures directement à la surface de la Lune à la recherche de signes de vie offrirait à l'Europe une place de premier plan dans l'exploration du système solaire, avance l'agence. Même ne pas trouver de vie sur Encelade serait une découverte majeure, car cela soulèverait des questions fondamentales sur les raisons de l'absence de vie dans un environnement où toutes les conditions semblent réunies, estime M. Kawaya. C'était des éléments clés pour la vie découverts sur une lune de Saturne, un texte de Bénédicte Ré, paru dans Le Devoir.
Lait de vache ou lait de chèvre, lequel est le meilleur ? Un texte de Mathieu Perrault, paru dans la presse. Le lait de chèvre a plus de sucres complexes que le lait de vache et ressemble plus au lait maternel, selon Daniel Bojard, biologiste de l'université de Göteborg en Suède, spécialiste de l'analyse comparée des laits de mammifères. Ces sucres sont dirigés plus lentement par l'organisme, ce qui fournit une énergie durable. Mais personne n'a testé sérieusement les bénéfices pour la santé des sucres complexes dans le lait jusqu'à maintenant, dit M. Bojard. Cet avantage du lait de chèvre au niveau des sucres complexes pousse certains chercheurs à penser qu'il est meilleur que le lait de vache. Le lactose, un sucre plus simple, est le principal sucre du lait et se retrouve en quantité similaire dans le lait de chèvre et celui de vache. Même chose pour les gras et les protéines, note le biologiste suédois. Les sucres dans le lait varient aussi selon les différentes races de vaches et de chèvres. Une étude européenne, publiée dans l'International Journal of Gastronomy and Food Science en 2025, a conclu que le lait de chèvre est moins apprécié par les consommateurs à cause de son goût moins neutre que celui du lait de vache. Mouton et phoque. Un lait encore moins couru, celui de la brebis, est beaucoup plus riche en gras et protéines que les laits de chèvre et de vache, souligne Daniel Bojard. Mais, dit-il, il y a deux fois plus de lait de chèvre que de lait de brebis produit dans le monde. Les chèvres sont plus faciles à élever que les brebis et produisent plus de lait. Une chèvre produit 10 fois moins de lait qu'une vache. À noter, une grande proportion des laits de chèvre et de brebis est destinée au fromage. Le lait de phoque est l'un des plus comparables à celui des mères humaines au niveau de la diversité de ses composantes, selon une étude publiée par M. Bojard dans la revue Nature Communications. Souvent, les animaux sauvages ont des laits ayant plus de diversité, explique-t-il. Ce qui est surprenant, c'est que les 2/3 des molécules présentes dans le lait de phoque ne sont pas dans le lait humain. Ça pourrait constituer une source de nouvelles molécules à ajouter dans le lait en poudre. Le chercheur suédois a étudié des phoques gris de l'île de May, en Écosse. Les phoques ont une lactation très particulière, relate-t-il. Elles ne durent que 17 jours. Le lait est très riche, probablement parce que les jeunes phoques vivent dans des régions très froides. Et les bébés phoques boivent beaucoup. Alors, la mère perd énormément de poids. Elle n'a pas le temps de manger. À la fin de l'allaitement, la maman phoque est littéralement en train de mourir de faim. En savoir plus. 253 000, c'est le nombre de chèvres laitières au Canada en 2021. 1,4 million, le nombre de vaches et de génisses laitières au Canada en 2024. 3150, c'est le nombre de brebis laitières au Québec en 2025. C'était « Lait de vache ou lait de chèvre, lequel est le meilleur ?» Un texte de Mathieu Perrault, paru dans la presse.
Ottawa va réformer son système de surveillance des pesticides. Un texte d'Alexis Riopel, paru dans Le Devoir. Le gouvernement du Canada va supprimer les réévaluations cycliques des pesticides et opter pour une surveillance moderne fondée sur le risque. Cette décision, discrètement mentionnée dans le dernier budget fédéral, suscite des réactions variées chez les scientifiques. Jusqu'à présent, la loi sur les produits antiparasitaires impose à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ARLA, de réévaluer les pesticides homologués de manière cyclique tous les 15 ans afin de prendre en compte les nouvelles données probantes. Or, en raison du nombre croissant de produits antiparasitaires homologués au Canada, on en compte plus de 7 600. L'Arla accuse du retard dans ses réévaluations, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la santé humaine et planétaire. L'une des annexes du dernier budget fédéral annonce ainsi la volonté du gouvernement de supprimer les réévaluations cycliques et de mettre en place une surveillance moderne fondée sur le risque. Le texte ne donne toutefois aucun détail sur la nouvelle approche préconisée. La biologiste Mathilde Tissier, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal et chercheuse au Centre national de la recherche scientifique, CNRS, en France, s'inquiète de la suppression de la réévaluation cyclique des pesticides. Avec trois collègues scientifiques du Canada et des États-Unis, elle signe une lettre ouverte dans Le Devoir pour alerter de la situation. Les réévaluations cycliques sont particulièrement utiles, selon les signataires, parce qu'elles permettent de détecter des risques qui se manifestent seulement après des années d'utilisation d'un pesticide en conditions réelles. À l'heure où la communauté scientifique et les institutions de santé reconnaissent les liens étroits entre la santé humaine, animale et environnementale, le Canada ne devrait pas affaiblir l'un des rares systèmes conçus pour détecter les risques émergents, écrivent-ils, en rappelant les dangers posés par le DDT et les néonicotinoïdes. Questionné par Le Devoir sur la réforme, Santé Canada est avare de détails. Par courriel, on explique que les changements proposés créeront des gains d'efficience réglementaire et opérationnelle dans la réalisation d'examens fondés sur les risques émergents et de nouvelles données probantes, tout en renforçant les activités de surveillance qui appuient la détection de problèmes liés à l'environnement et à la santé humaine. Valérie Langlois, professeure à l'Institut national de la recherche scientifique du Québec, et spécialiste en toxicologie environnementale, est plus optimiste que ses collègues qui signent la lettre ouverte. Elle croit qu'un système de surveillance moderne et en partie automatisé pourrait désengorger le système de réévaluation et même déclencher des révisions plus fréquemment qu'aux 15 ans, en cas de besoin. Si cela permet une surveillance plus agile, ce sera salutaire, affirme Mme Langlois, qui a siégé pendant 3 ans au comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires mis en place par Santé Canada. Cela dit, la spécialiste appelle le ministère à expliquer clairement quels critères déclencheront la réévaluation d'un pesticide dans le nouveau système. De son côté, Mathilde Tissier déplore le manque de transparence dans les changements que s'apprête à mettre en œuvre Santé Canada. On ne sait pas ce que ça veut dire, une surveillance plus moderne. On ignore complètement ce qui va déclencher une réévaluation des molécules, souligne-t-elle. En Europe aussi, une réforme réglementaire propose ces jours-ci d'éliminer les réévaluations cycliques. Lundi, plus de 2300 médecins et scientifiques ont appelé le Premier ministre français à rejeter ce plan de la Commission européenne qu'il qualifie de « détricotage » des avancées réglementaires des 30 dernières années sous la pression de l'agro-industrie. Début décembre 2025, une revue scientifique a annoncé le retrait d'une étude datant de l'an 2000, largement citée dans le débat sur le glyphosate en raison de conflits d'intérêts entre ses 3 auteurs et la firme Monsanto. Cette étude avait été utilisée par Santé Canada, en 2017, dans son évaluation ayant mené au renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour 15 ans. C'était « Ottawa va réformer son système de surveillance des pesticides », un texte d'Alexis Riopel paru dans Le Devoir.
Réduflation, un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 21 décembre 2025 dans la presse. Définition. Sous-dimensionnement d'un bien de consommation courante par son fabricant, sans diminution du prix de vente. OQLF. Formation. Mot-valise formé à partir de réduction et inflation, sur le modèle anglais de shrinkflation. Attestation, l'anglais shrinkflation apparaît vers 2009, mais l'équivalent français réduflation émerge à partir de 2021. Moins pour le même prix. Sur fond d'inflation galopante, fabricants et commerçants mettent en œuvre toutes sortes de stratégies pour conserver ou augmenter leurs marges, sans forcément augmenter les prix de vente. Celle de la réduflation est l'un des exemples les plus courants, assez simple à instaurer. Au lieu de monter les prix, on diminue les quantités vendues tout en conservant ces derniers et on espère que les consommateurs ne s'en rendent pas compte, explique Anne Rouleau, réviseur à la presse. Certains dictionnaires, comme le Larousse en ligne, proposent la forme « inflation cachée », mais Madame Rouleau préfère « réduflation », qui circonscrit mieux le concept. Inflation cachée est plus générique et moins explicite, souligne-t-elle, notamment parce que l'expression peut englober d'autres stratégies commerciales connexes. Un arsenal de stratégies commerciales. La réduflation est un peu l'arbre qui cache la forêt, surtout quand on tente de vous passer un sapin. Il existe une myriade de stratégies de vente basées sur le même genre de principe. Il en va ainsi de la décaliflation. Au lieu de diminuer la quantité d'un produit, on en diminue la qualité. Ce qui en fait un concept apparenté, explique notre réviseur. On parle ici de la qualité des ingrédients ou des matériaux. La définition de l'Office québécois de la langue française, OQLF, précise que ce phénomène peut également concerner les services. Sur ce plan, la décaliflation s'observe par la réduction des services offerts ou encore un allongement des délais occasionnés par un manque de personnel, par exemple, indique l'organisme. On trouve également la duraflation, shelfflation, une compromission de la durée de vie de denrées alimentaires périssables plus rapidement, ainsi que l'inflation, stretchflation, une légère augmentation de la quantité d'un produit accompagnée d'une hausse de son prix de façon importante. Un concept médiatisé. Même si le concept n'est pas nouveau, son apparition en français reste relativement récente, poussée par la fièvre inflationniste des années post-COVID. Aujourd'hui, il est bien implanté dans le paysage économique et médiatique québécois. Pour preuve, l'économiste et chroniqueur invité de la presse Sylvain Charlebois a contribué à cette diffusion en consacrant de nombreux textes explicatifs à ce concept et d'autres du même acabit, comme la duraflation. Il a par exemple épinglé les fabricants de chocolat et d'autres barres industrielles en flagrant délit de réduflation à la veille de Pâques, l'an passé, alors que le prix du cacao montait en flèche. Le Québec ne brade pas le français. La réviseure Anne Rouleau note une nette disparité de l'utilisation de ce concept entre le Québec et l'Europe. Bien qu'il soit utilisé dans le même sens de part et d'autre de l'Atlantique, la belle province a généralement réussi à s'affranchir de la précision par l'ajout du mot anglais. Pour être plus clair, au Québec, 96% des occurrences du mot réduflation apparaissent seulement en français sans ajouter le mot anglais. Les auteurs des textes supposent donc que les lecteurs vont comprendre le mot sans qu'on soit obligé de leur donner l'équivalent anglais, rapporte la réviseure de la presse qui a effectué la même recherche dans les textes publiés en Europe, d'où elle a tiré une conclusion inverse. Dans 95% des cas, le mot français était accompagné du terme anglais, ce qui témoigne d'une intégration rapide et réussie de « réduflation » dans la langue au Québec. C'était « Réduflation », un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 21 décembre 2025 dans la presse.
Quels sont ces corps flottants, parfois présents dans vos yeux? Un texte de Morgane Petit, paru dans Science et Vie. Des vers dans vos yeux? Non, ce n'est pas un film d'horreur. Malheureusement, ça peut parfois arriver. Cependant, c'est très rare. Et ce n'est pas parce que vous voyez des espèces de taches qui semblent se mouvoir dans votre œil que vous êtes infecté. En réalité, ces taches traduisent une affection bénigne de l'œil sans gravité et qui ne nécessite que rarement un traitement. Pour autant, les parasites dans les yeux, oui, ça existe. Des vers ou des mouches dans les yeux? Rassurez-vous, il y a très peu de risques que vous ayez des mouches ou des vers dans les yeux. Par contre, des petites choses qui se baladent, ça, c'est tout à fait possible. En effet, plusieurs personnes se plaignent parfois de voir des petites formes irrégulières qui se déplacent lentement dans notre champ de vision. On parle souvent de corps flottants. Ils apparaissent lorsqu'un objet se trouve à l'intérieur de notre œil et projette une ombre sur notre rétine. Cette dernière est la structure sensible à la lumière et qui se trouve au fond de l'œil. Il ne s'agit en rien de parasites ou autres particules venues de l'extérieur. Ces fausses mouches se présentent sous différentes formes. On peut observer des petites taches sombres ou points noirs, des fils ou filaments, ou encore des espèces de vers ou même des fragments qui ressemblent à des toiles d'araignée. Mais là encore, on vous le redit, aucun animal ou parasite n'a élu domicile dans vos yeux. Pour autant, il ne s'agit pas d'illusions d'optique. Ces petits fragments sont bien présents et sont en fait des débris qui flottent dans l'œil, plus précisément dans le corps vitré. Ce dernier est une sorte de liquide gélatineux, transparent et incolore, qui se trouve à l'intérieur du globe oculaire, entre le cristallin et la rétine. Avec le vieillissement de l'œil, on peut parfois observer un décollement postérieur de ce corps vitré qui se traduira par l'apparition des fameux débris et corps flottants. On parle d'une pathologie bénigne, la myodésopsie. La myodésopsie, des vers dans vos yeux dus au vieillissement. Ces vers dans vos yeux proviennent donc du vieillissement du corps vitré. Ce dernier va se liquéfier et son enveloppe se fragmente et se détache de la rétine. Le stress et la fatigue sont également responsables de la fragmentation, en particulier chez les personnes de moins de 30 ans. Les fragments, en se détachant, flottent ensuite dans la cavité de l'œil. Ce sont donc eux qui donnent naissance à ces fameux corps flottants. Parfois, des flashs lumineux peuvent aussi accompagner les corps flottants. Ils sont causés par des tractions exercées par l'enveloppe du corps vitré sur la rétine lorsque cette enveloppe se détache. Ces tractions sont traduites par le cerveau comme l'impression d'éclairs lumineux. Les vers dans vos yeux et les éventuels flashs sont donc les symptômes de la pathologie bénigne, la myodésopsie. Pour en être sûr, il est possible de réaliser un examen du fond de l'œil pour confirmer la présence des fragments et dépister d'éventuelles complications. En effet, normalement, cette pathologie ne nécessite aucune prise en charge et aucun traitement. Il n'y a pas d'impact sur l'œil ou la vision et ce décollement évolue favorablement. Les corps flottants diminuent progressivement, supprimant donc l'éventuelle gêne occasionnée. Donc, si vous avez des vers dans vos yeux, très souvent, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Cependant, dans de très rares cas, il peut y avoir quelques complications. De très rares complications peuvent apparaître. Parfois, le décollement postérieur du vitré peut s'accompagner de complications. Cependant, elles restent très rares. Il s'agit principalement de déchirures ou d'un décollement de la rétine. Les déchirures rétiniennes se caractérisent par l'apparition de déchirures dans l'épaisseur de la rétine. On l'a vu précédemment, le décollement du corps vitré entraîne des tractions sur la rétine. Habituellement, ces tiraillements n'ont aucun impact, mais très rarement, ils peuvent causer des déchirures sur la rétine. Ces déchirures peuvent, quant à elles, entraîner un décollement de la rétine. Le liquide du corps vitré s'engouffre dans la déchirure, s'insinue sous la rétine et la décolle de la paroi. En cas de décollement de la rétine, les patients se plaignent d'une perte de leur champ visuel, perte qui peut s'étendre avec la progression du décollement. Cela se traduit par l'apparition d'une zone sombre, comme un rideau, qui obstrue le champ de vision. Le traitement des déchirures se fait par photocoagulation laser, une manière de souder la rétine à la paroi, ce qui empêche l'entrée du liquide dans la déchirure. Par contre, en cas d'un décollement de la rétine, il faudra opérer l'œil atteint. Quant au verre dans vos yeux, les corps flottants, il arrive dans de très rares cas qu'ils deviennent vraiment gênants. Il faut alors réaliser un traitement chirurgical pour supprimer ces corps flottants ou les tractions vraiment douloureuses ou dangereuses pour la rétine. Mais pouvez-vous vraiment avoir des verres dans vos yeux? Eh bien, oui. Si les corps flottants ne trahissent en rien la présence de verres dans vos yeux, vous pouvez malgré tout être contaminé par des parasites. Il existe plusieurs parasites qui peuvent nous contaminer. On trouve notamment le nématode vert rond, Loa loa, endémique des forêts tropicales d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce dernier est à l'origine de la loase, une pathologie due à la présence de ces parasites. La plupart du temps, les personnes parasitées n'ont pas de symptômes. Cependant, parfois, elles se plaignent de gonflements qui démangent sur les bras et les jambes. En outre, il arrive que les vers migrent dans les yeux, provoquant des douleurs et des gênes plus ou moins importantes. Seul un traitement médicamenteux permet de venir à bout du ver. Des mouches non piqueuses peuvent aussi parasiter les yeux des humains avec leurs larves. Les personnes infectées souffrent alors d'une ophtalmomyase externe. Les larves colonisent les tissus oculaires et provoquent des symptômes semblables à une conjonctivite aiguë. Habituellement, ces mouches ne colonisent pas les humains et le parasitisme se fait de manière accidentelle lorsque la mouche Mia heurte accidentellement l'œil de la personne et y dépose au vol ses œufs. Pour résumer, vous avez peu de risques d'avoir des vers dans vos yeux. La plupart du temps, il s'agira donc seulement de débris issus d'un phénomène naturel et bénin. Pas d'inquiétude. C'était « Quels sont ces corps flottants parfois présents dans vos yeux? » Un texte de Morgane Petit paru dans « Science et vie ».